et l'universel du mal, enfin, mal, sale, le méchant, le scélérat, le philosophe scélérat, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça le fantasme de Bush, vous savez, quand il voit les musulmans, son ami qu'il a maintenu au pouvoir là, grâce à des bombardements de tours à New York, hein, il voit peut-être chez certains musulmans que les musulmans, il y en a qui sont pires que Bin Laden, parce que Bin Laden, c'est un copain, et c'est grâce à ça que Bush reste au pouvoir. Hein. Tandis que il y a peut-être des mecs qui vont imaginer de faire le SAD de notre magnifique Amérique et Europe cancienne. Nous sommes dans une situation néo-cancienne, hein, dominante. Hein. Bon, c'est très dangereux. Mais à quoi aboutit l'universalité du bien de Kant et l'universalité scélérate du mal, ce que lui dit SAD, ça aboutit à quoi? Eh bien, tous les deux peuvent être vrais, les deux universels contraires peuvent être vrais si l'univers est vide, justement, le modèle est vide. Donc il y a une seule solution, vous rasez la planète, enfin vous détruisez tout le monde, et vous aurez un monde sado-kantien parfait. Ça sera très intéressant pour ceux qui restent, il n'y en aura pas. Donc je ne sais pas qui pourra en profiter, voyez-vous, c'est la bonne plaisanterie de Lacan qui dit oui, les mecs là, dans les laboratoires de biologie craignent qu'une saloperie passe sous la table, sous la porte, et puis ça nettoie toute la planète. Hein. Vous voyez le H3N3. Bon. Alors vous avez là, pof, nettoyer toute la planète. D'accord, il dit, ben, au moins, ça aura au moins un avantage si ça se produit, puisque on ne peut pas l'empêcher. Hein, la seule chose qui peut l'empêcher, c'est la position de Einstein, c'est d'écrire à Freud, faire une analyse comme savant, et devenir responsable de ce qu'on fait, et imposer sa responsabilité au pouvoir politique. Bon. Ce que Einstein n'a pas réussi à faire. Bon, c'est un peu neuf, hein. Einstein et Freud, c'est tout nouveau quand même. Hein. Bon. Moi, je dis que c'est ça l'avenir, hein, pour la science. C'est que c'est pas que la psychanalyse, c'est pas une science, mais la science, c'est le seul discours qui permet d'achever le discours scientifique. En rappelant les savants à leurs responsabilités. Hein. Donc tous les mecs du CNRS, les employés fous, il ferait mieux de faire une analyse. Et quand ils font une analyse, alors vous avez les mecs qui disent « Oh, ils sont psychotiques !» Alors ça ne donne pas envie d'aller faire une analyse, et vous rigolez. Si vous souriez, il était polytechnicien, « Oh, il était psychotique !» Non mais c'est quel scandale, c'est une honte, non? C'est vous trouvez pas, c'est pas une honte. Bon, alors là-dessus... Rompierre, il disait, ah oui, j'ai un mathématicien d'Orsay en analyse depuis plusieurs années, là, il fait une analyse avec moi. Il était très fier, ça me faisait Alain Goffet, ça faisait rire à Louche, on rigolait bien. Alors moi, j'ai demandé à Rompierre, j'ai dit, mais alors, dans son analyse, il n'a pas inventé un théorème, tout le monde arrive. Et moi, je prends ça au sérieux. S'il était mathématicien qui fait une analyse, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas répondre un peu de théorème, il y a des théorèmes de Lacan. Lacan, lui, il n'est pas mathématicien, il ne les publie pas comme théorème, mais le mathématicien, il aurait pu. Oui, mais il y a un théorème de Lacan. Lequel ici?
Mais je ne sais plus, mais il dit c'est le théorème de Lacan.
Ah, lequel ici?
Ah, mais il faut que je le retrouve, mais...
Ah, retrouvez-le.
Ah oui, oui,
écrivez-moi ça. Bon, alors, donc, l'argument de Saint-Anselme, pour finir sur les Kanteurs, le Kant, il est tout à fait fondé, ce mot de Kant, avec Kanteur avec un K. Parce que donc, Peirce et Frege confirment cette intuition, ce qui n'est pour moi qu'une intuition philosophique chez Kant. Et moi, je trouve que, justement, la psychanalyse, ça permet de lire aussi bien les mathématiques que la philosophie de Kant, et que toute la littérature, ça permet de lire Shakespeare, peut-être autrement, même, je vous disais ça la semaine dernière, autrement que de le lire comme Jones. Hein, parce que Lacan, quand il lit Joyce, et Freud, quand il lit Ansel, c'est peut-être pas la même chose que Jones qui lit Shakespeare. Mais Lacan, il a tenu à répondre à Jones qui a lu Shakespeare 300 ans après et qui a lu toute la littérature shakespearienne dans toutes les langues européennes, qu'elles soient allemandes, françaises, anglaises, espagnoles. C'est impressionnant le bouquin de Jones sur Shakespeare. Hein. Ça s'appelle Oedipe Hamlet. Mais tout ça, c'est pas pour faire une psychopathologie des savants ou des écrivains. Hein, justement pas. C'est fait pour apprendre à lire. Et pour lire. Parce que lire, c'est passionnant. Et puis quand on apprend à lire et qu'on lit, on apprend encore mieux à lire. Et puis on peut écrire et parler différemment. Et on peut même vivre avec son corps différemment. on peut même commencer à réfléchir qu'est-ce qui se passe dans les chiottes, dans la cuisine, dans la salle à manger et dans la chambre à coucher. Ça veut dire qu'on peut sortir du territoire, on peut ne plus avoir peur du territoire de la phobie et y aller franchement, et c'est même plus un territoire de la phobie, ça s'appelle libido. Depuis Hans et son père, dit Lacan, accompagné par Freud, à l'entrée du territoire de la phobie, les psychanalystes reculent. Ils ont peur. Et c'est vrai de cette madame qui traite tout le monde de psychotique. Bon. Alors, j'ai répondu à votre question, hein, ça vous donne des indications,
quoi. Oui, d'accord, c'est vrai.
Bon. Alors, il faut réfléchir à tout ça. Les formules à sexuation, je viens d'en faire une version encore plus directe. Je vous dis, elle est tellement directe, il faut que je corrige l'orthographe. Mais elle est tellement directe que je vais garder la vieille, parce que la vieille était plus déliée, plus longue, mais peut-être qu'elle est pleine d'enseignements. Hein? Bon, mais c'est vrai que moi, pour mon équilibre mental, pour ma satisfaction intellectuelle et sexuelle, j'ai besoin de l'améliorer encore jusqu'à la rendre élégante, mon commentaire des formules de sexuation. Donc maintenant, je fais un commentaire en 6 points. Vous voyez, je l'ai là. Maintenant, ça fait plus que combien de pages? Je suis arrivé à 16 pages. C'est pas mal, hein? Il n'y a que juste quelques schémas à la fin qu'on trouve dans l'autre texte. Bon, c'est moins riche que l'autre, c'est moins argumenté du point de vue pour présenter le problème. Là, c'est vraiment la solution du problème. Comment lire les formules en 6 étapes? Il y a un joli dessin, vous voyez, un joli diagramme de l'Hervé dans la fin.
Ça va arriver sur le site quand, ça?
Ben, je ne sais pas quand je vais oser l'envoyer à Pascal, parce que j'ai toujours peur de l'emmerder, moi. Oui, parce que c'est sans Pascal Bernard, je ne peux rien faire. Je suis complètement incapable de mettre un texte sur le site, sur cette site. J'ai des scrupules, je devrais apprendre ça, mais il faut que j'arrive à coincer quelqu'un qui va m'expliquer comment faire. Bon, il faudrait que je prenne des vacances, par exemple.
La traite
Pascal. Elle est bonne, non?
Très bonne.
Bon. Alors, donc, tout ça pour vous dire que... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, j'étais devant ce problème, et mon idée, c'est comment ces trois croisements, n'est-ce pas, se transforme en deux croisements plus un ici. Voilà, comment ça passe là? Comment ça vient ici? Bon. Donc c'est pour ça que je vous ai donné ça avec ce rond bleu, pour que vous puissiez faire une lecture comparative. Vous voyez, c'est une lecture par comparaison. Qu'est-ce qui est le même, qu'est-ce qui est différent? Hein? Vous voyez qu'ici, on peut utiliser le diagramme de Terrasson, là, que j'ai expliqué dans mon livre. Le diagramme de Terrasson, ben par exemple, il vous permet d'écrire que ici, vous voyez, ici, je mets assez fin. Vous avez quelque chose qui est commun ici avec ça. C'est un très bon outil, c'est un bon instrument, le diagramme de Terrasson, vous voyez. Ça vous permet d'apprendre à lire les figures de dessin en décomposant le dessin par morceaux. C'est un moyen de découper le dessin. C'est imparable. Il faut toujours qu'il n'y ait qu'un seul point dans chaque zone. Quand vous en avez deux, c'est que vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas bien vu. Et hop, vous pouvez identifier les deux points que vous trouvez et rapprocher les arêtes et simplifier le graphe. C'est vachement bien comme instrument, le diagramme de Terrasson. Vous voyez? Un point dans chaque zone. Bon, alors, si on décompose tout un nœud ou toute une chaîne, on n'a que des trucs comme ça. Hein, on n'a que des trucs comme ça. Vous voyez? On n'a que des trucs comme ça. Parce que là-dedans, au pire, le Terrasson, ça ramène à ça. Ça, c'est le plus petit découpage. Ça veut dire qu'un nœud ou une chaîne, c'est toujours un composé de trucs comme ça qui se collent ensemble selon un graphe. C'est le graphe de Terrasson. Et ça sert surtout pour bien délimiter les parties qu'on peut reconnaître dans la lecture. Vous voyez? Il y a un binaire des points. C'est pour ça que je mets des points avec un vide dedans et puis des points que je remplis de bleu. Parce que c'est toujours, il y a toujours 4, c'est toujours 4, 6, 8, il y a un binaire de points. Donc, j'appelle ça le poinçon.
À cause du poinçon du désir. Hein.
Ça fonctionne comme une salière aussi. Si vous, vous vous souvenez, dans, quand vous étiez petit à l'école, la salière, on ouvre dans un sens, dans l'autre. Et ça peut, ça, c'est un espace qui s'ouvre et qui se ferme, l'espace des nœuds, c'est comme ça. Et c'est Terrasson, moi, il m'a mis la puce à l'oreille et j'ai utilisé son graphe parce que il était en train de parler de ce graphe pour tout à fait autre chose et il a dit cette phrase très jolie, il a dit « Mais le nœud de l'affaire sort des arêtes. » Alors moi, comme il a dit le nœud, je suis bête, ou j'associe librement, je sais pas, mais je systématise pas, j'ai attendu pas mal de temps avant de m'apercevoir que, ça, que c'était vachement bien son truc. Mais il est quand même arrêté. Le nœud sort des arêtes. Ben oui, parce que ça, vous pouvez le fermer comme ça. Regardez, le diagramme de Terrasson, vous pouvez faire disparaître le croisement en fermant ça comme ça. Vous pouvez le fermer comme ça. En identifiant ces deux points, pop, vous fermez, vous avez ça. Et ben, et les trucs qui viennent ici et là, vous voyez, ils continuent à être là. Donc vous pouvez faire disparaître le nœud dans ces salières qui se ferment. Ça, ça vous évoque, vous avez le cœur sacré de Jésus, enfin des trucs comme ça, vous avez des gens comme ça qui vous racontent des trucs du genre dans la neige il y avait des petites plaies rouges comme ça, ça saignait. Moi j'en ai connu hein, des gens qui me racontent des trucs comme ça. Vous voyez, vous avez, c'était pas des coquelicots, c'était le cœur sacré de Jésus dans la neige en Suisse. Bon, ils ont des intuitions formidables, les névrosés, les pervers et les psychotiques et les analysants. Ils ont des intuitions géniales. Ils se rendent pas compte qu'ils essayent dans leurs rêves de vous raconter des trucs comme ça, qu'ils sont en train de faire de la topologie, mais ils savent pas encore. Ils savent pas, ils vont pas l'écrire. Hein. Ils, en général, ça, ils se mettent à vendre la vie claire sur les terrasses des cafés. Les dames qui ont comme ça, n'est-ce pas, vu le petit cœur sacré de Jésus se démultiplier comme les regards de l'homme au loup, de l'homme au rat. Non, de l'homme au loup, c'est l'homme de rêve de l'homme au loup. Où il y a plein des yeux là comme ça. Là, quand il dit c'est le petit A, il est toujours splitté. Vous voyez ? Donc, ça c'est fermer, et puis ça c'est ouvrir. Et vous ouvrez plein de petites lucioles, et puis ça se développe. Bon. Il y a une écriture. Écoutez, à propos de l'écriture, puisque vous m'avez posé la question sur Kant, et à propos de Freud, de la négation, lisez dans l'agressivité en psychanalyse la réponse que fait Lacan à la thèse numéro 4. Quand il parle des moments féconds, que des patients se plaignent, il a entendu ça, là, que les patients se plaignent que la réalité, un beau jour, à un moment donné, ça s'est tout à coup arrêté. La réalité s'est arrêtée comme au cinéma, à l'époque où, quand le projecteur de cinéma s'arrêtait, l'ampoule, elle cramait l'image. Vous vous souvenez, on voyait ça, hein. Tout à coup, on est en train de regarder un film, ça s'arrête, et puis on voit sur l'écran la projection du film qui crame. Bon, et ben les analysants, ils utilisaient des trucs comme ça pour parler de ça. Ils disaient, moment fécond. Et à partir de ce jour-là, la réalité, elle s'est décomposée en flocons. Vous voyez, il est là, le ruissellement. Il est dans le dire des patients. Bon. Alors, les grands cliniciens qui croient, qui veulent nous faire croire qu'ils vont entendre, parce qu'ils ont une oreille super bien réglée avec un condensateur là, sur le côté, ils ont une oreille clinique de psychanalyste tellement bien exercée qu'ils vont entendre tout ça. Hein, en l'observant et qu'ils vont faire comme Freud, qui croit que Freud fait ça, à partir d'une phénoménologie de ce qu'ils croient comprendre, de ce que peut représenter ce que disent les patients, on va avoir des phénomènes qu'on va pouvoir théoriser dans la psychanalyse et faire une théorie concurrente de la neurologie. Non, mais c'est des démons. Vous voyez ? C'est le monde à l'envers. La psychanalyse, c'est le contraire. La psychanalyse, c'est Freud qui a eu une intuition, comme Kant, hein, et qui y tient, et il invente la psychanalyse, il écrit son analyse. Vous comprenez ? Si vous n'avez pas le discours, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas d'observation, vous n'avez rien. Ça, c'est ce qu'écrit Colliré dans un texte qui s'appelle « De l'influence des doctrines philosophiques sur les théories scientifiques ». C'est anti-kantien, c'est contra-kantien, c'est une épistémologie freudienne complètement contraire, qui n'a rien à voir avec celle de ce pauvre Paul Laurent Assoud, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'épistémologie freudienne », lisez-le, vous verrez que ça n'a rien à voir. Tenez, je vous donne un dernier exemple pour vous montrer l'importance de l'écriture. Vous voyez, Lacan, je vous ai déjà dit plusieurs fois ça, Lacan, quand il parle du masochisme, il dit les masochistes, oh là là, hein, c'est pas comme Miller qui croit que le masochiste, le nier qui met la main, le doigt dans la meule. Bon, non, non, mais alors il fait oui, mais non, mais c'est pas ça du tout. Là, quand il dit les masochistes, ils mettent le petit bout du petit bout du petit doigt dans la machine infernale. Hein? De quoi s'agit-il? Il continue à expliquer. Il dit parce que les masochistes, ils sont seulement en train de se poser la question, est-ce que le coup de fouet qui fait une balafre sur le corps, est-ce que la balafre, c'est un triunaire? Triunaire, c'est un mot de psychanalyse, Freud et Ziegersohn, vous voyez? Lacan l'a piqué comme ça dans Freud, il l'appelle triunaire. Bon. Ça veut dire un élément de lisibilité qui n'est pas encore une lettre. C'est vrai, c'est le coup des entailles dans l'os. Bon. Hein? Donc, vous voyez bien que si vous avez un psy qui vous écoute, un masochiste qui est en train de vous dire qu'il a peut-être des idées de je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire avec une lame de rasoir, des histoires horribles, vous en avez dans l'humé, des mecs qui vous disent oh, j'ai des fantasmes, ils adorent ça, vous avez le truc glauque. On en met des pages, même dans les journaux, il y a ça l'été, en général, c'est l'été. Pendant l'été, il y a des feuilletons comme ça, extrêmement séduisants, pour choquer le bourgeois. Bon. Et alors les psys, ils vont être là à dire, oh là là, le masochisme, on a la désintrication des pulsions, c'est très dangereux, ça, si ça se déclenche, et si ça explose, tout le monde va se retrouver assassiné ou assassinant, et tout ça. Bon, ça, c'est des trucs de pervers, ça. Moi, j'ai des analysants pervers qui venaient me voir, et qui me disaient, pourquoi je ne suis pas une bête féroce? Pourquoi est-ce que je tue pas mes partenaires sexuels? Il y a des tas de gens qui ont des mœurs en général extrêmement doux. Ils enveloppent un copain dans du papier d'alu. Non, pas du papier d'alu, mais papier cellophane. Vous savez, tout ça, pour même pas pour le baiser, pour le laisser un peu pliant, comme ça, en quelques heures. Bon. Non, mais c'est du grand guignol. Lisez Michel Foucault. Il va acheter ses cuirs en Californie. Il n'ose pas les acheter à Paris, vous voyez. On ne parle pas sérieusement quand on parle de perversion comme ça. La perversion, c'est, vous voyez, la lecture. Le sujet ne s'en rend pas compte. Donc il faut être freudien pour entendre qu'un masochiste, c'est quelqu'un qui se demande est-ce que ce que je vais faire, là, ça va faire quelque chose de lisible. Vous voyez un peu l'oreille de Lacan? Bon, ça n'empêche pas que Lacan, il félicite Sartre quand il parle de la perversion à propos du voyeurisme. Ben, Sartre, il a fait une très bonne observation. Et Sartre aussi, il a une intuition pour faire ça. Qu'est-ce que c'est l'intuition de Sartre? Elle est dans le l'être et le néant. Hein? Le voyeur, qu'est-ce qu'il... Le voyeur, il cherche à voir sa victime et pas être vu. D'abord, bon, ça c'est élémentaire. Hein, c'est comme le sado et le maso, ça va pas ensemble. Mais c'est toujours des affaires de lecture et d'écriture et de parole. Et c'est ça que comprennent pas les docteurs, les psys et tous ces gens-là. Ils sont pas freudiens. Freud, il est un champion du monde de la lecture. Vous voyez? Si vous ne vous imprégnez pas de cette idée, et il est omnubilé, parce que c'est quelqu'un qui a un esprit scientifique, qui a donc une honnêteté intellectuelle, il est omnubilé par le fait d'écrire justement son intuition, sa lecture, il veut l'expliquer aux autres. Il est donc les mecs qui viennent corriger Freud me font marrer, parce qu'ils n'ont pas encore commencé à lire Freud, vous voyez. Lacan, il a sérieusement commencé, et il nous donne des indications extrêmement fortes. Bon, donc qu'est-ce qu'il dit ça, le voyeur? Je vous le redis parce que vous ne l'avez pas lu, mais allez le lire dans l'être et le néant, cherchez de tourner les pages, vous allez le trouver. Lacan, il en parle dans un de ses séminaires. Hein. Bon, c'est ça, il dit le voyeur, qu'est-ce qu'il cherche à voir? Bon, il cherche à voir sa victime qui n'est pas vue, ça c'est une chose, et que la victime se sente protégée. Mais que tout ça culmine dans quoi? La figure, c'est quoi? C'est arriver à apercevoir chez la victime qui est sûre de ne pas être vue, donc il faut que ça marche vachement bien comme mise en scène, pour que la victime soit tranquille, seguro, certain que personne ne le voit. Mais la victime a encore un dernier doute. Au dernier instant, il a un doute et il jette un coup d'œil comme ça pour voir si encore on ne le regarde pas. Alors, si le voyeur, il voit ça, c'est génial. Ça, c'est ça. Ben, Lacan, il dit bravo.
Tu viens le regard.
Oui, mais voyez, mais Lacan, il a beau critiquer ça, parce que ça, il a dit des conneries énormes, quoi. Le désir, passion inutile, ou l'enfer, c'est les autres, des trucs comme ça, bon... Sartre, c'est calamiteux, mais Sartre, il a un talent fou, si vous comprenez. D'ailleurs, moi, je pense que Sartre, grâce à ça, il est un grand auteur dramatique. Hein? Quand on le félicite, il dit que Claudel, Sartre, c'est la même chose que c'est la même chose que Eschyle, c'est les mêmes registres, c'est les mêmes procédés que la tragédie antique.
Alors ça fait chier Sartre, les jeunes gens aujourd'hui qui, je sais pas, ils préfèrent le Living Theater. C'est bien le Living Theater, je trouve que c'était marrant, mais pas. Il n'y a pas un texte tout à fait. Le texte n'est pas le même. Bon, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que le Living Theater. C'était du théâtre dans les années 60. C'était bien. Bon, ils ont fait une belle pièce là sur le. La prison des Marines, c'était vachement bien. Bon, vous voyez mon procédé, regardez, de lecture, mais ce que je veux vous dire, c'est que je me suis planté avec ça. C'est que donc, je cherchais à voir qu'est-ce qui ressemble. Alors, ici, il y a ce morceau-là, on le retrouve ici. On le retrouve là. Bon. Moi, je vous dis, lire, c'est découper. Je vous propose qu'on fasse une théorie de la lecture. Donc, lire, c'est découper. Donc, là, l'instrument de Terrasson, le graphe de Terrasson, c'est un instrument pour lire. Quand on a pris un peu l'habitude de l'utiliser, on n'a plus besoin de le dessiner. Hein, on le dessine, c'est comme pour apprendre à danser. Vous savez, il faut décomposer les phases, comme ça. Mais pour l'intuition, on n'en a pas besoin. Ceux qui ont l'intuition du truc, ils n'ont même pas besoin. Au contraire, ils sont contents de le trouver parce que ça étaye leur intuition. Donc il y a deux manières d'apprendre. Ou on a des intuitions et on cherche à les écrire, ou bien on emploie des processus d'écriture pour apprendre, comme on joue du violon ou à danser, à décomposer le geste pour arriver à accomplir un acte. Bon, il est évident que quand on efface la décomposition ordinale, tout ça, ça concerne la nomination. C'est la différence entre les cardinaux et les ordinaux. Les cardinaux, on n'a pas besoin de compter pour savoir ce que c'est que 4, 3, 1, 7. Bon, ça s'arrête vite, hein. C'est pas assez difficile de regarder un paquet de gens et de dire qu'il y en a 53. Hein, ça marche pas. Vous voyez, Lacan, il plaisante. Quand il fait une plaisanterie qui est très instructive. Il dit, qui sait combien y a-t-il de colonnes sur la façade de l'église de la Madeleine? Et il répond, l'architecte qui a construit l'église de la Madeleine. Mais par contre, pour compter, si vous avez un grand nombre, vous êtes obligé de commencer à compter. Alors, vous utilisez des processus d'écriture, là, c'est plus du tout de la parole. Hein. Les cardinaux, les noms cardinaux, la fameuse nomination, ça se répartit entre descriptif de Russell et acte de parole. Les cardinaux, c'est comme quand vous rencontrez Jules au coin de la rue. Vous savez lire. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites à celui-là, il s'appelle Jules. Des fois, vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez appelé comme ça. Vous ne vous souvenez plus par quel chemin dans le discours c'est venu jusqu'à vos oreilles, il s'appelle Jules. C'est comme trois. Bon. Tandis que si vous ne savez pas faire ça, vous faites comme les flics, vous demandez les papiers d'identité, le DNI, le numéro de l'INSEE, les empreintes génitales. On est là aujourd'hui, hein, pour les criminels sexuels, on cherche l'empreinte génétique. Et donc vous avez les flics, ils sont là, c'est comme dans la lettre volée, c'est Edgar Poe, il le raconte très bien, les flics ils découpent tout l'espace en petits bouts. Ça c'est la nomination par descriptif de Russell. Bon, ben, c'est un processus, mais c'est un processus de flics, c'est un processus métonymique. Ben, ce qui est intéressant dans l'apprentissage de lecture, c'est soit on est du côté de la métonymie, on apprend avec un algorithme, il faut l'effacer, il faut l'oublier. Soit on n'en a pas et on lit un truc et il faut essayer de construire l'algorithme pour voir que si on a une intuition, il y a toujours de la littéralité derrière. C'est Kant, c'est Freud, c'est le principe du freudisme. Et Freud, s'il n'y a pas de littéralité derrière, s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas le désir, dit-il, pour lire, hein, eh bien, lui, il dit, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas de la psychanalyse. Bon. Alors regardez, ici on a les trois qui sont là, les trois, voyez-vous, les trois croisements qui sont ici. Les trois croisements qui sont ici, et ben, vous voyez, ils sont aussi entourés d'un cercle bleu. Et ben ici, ils ont subi un quart de tour. Je mets du blanc maintenant pour que vous voyez un peu la différence entre les parties du graphe. Vous voyez ce graphe-là que j'ai construit sur celui-ci. Ici, vous n'avez pas trois croisements, vous n'en avez qu'un. Ici, il y en a trois, ici, il n'y en a qu'un. Mais vous pouvez comparer. Alors ça, c'est une façon de lire. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, cette semaine, il s'est passé que je me suis dit, mais je sais quand même des choses sur ces objets-là, et surtout dans ce sens-là, entre ces deux-là. J'étais en train d'essayer de faire un détour autour de celui-là, parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas le quart de tour qu'il y a là, vous voyez, et qu'il y a aussi ici. Ce qui m'intéressait, c'est celui par rapport à celui qui est au-dessus. Celui-là, vous voyez. J'essayais de faire le passage par là. Mais je me suis dit, mais je suis vraiment crétin, parce que dans celui-là, il y a quatre nœuds. Ici, il y a quatre nœuds. Dans, parmi les quatre nœuds qu'il y a ici, il y a trois baux, trois mouvements impropres, plus un mouvement hybride, donc un wiper. Hein? Dans celui qui est tout en haut, qui était au-dessus, il était à l'ordre 2. Celui qui était au-dessus, ici, au 2, il est ces deux baux. Et celui-là, c'est un beau plus un whitehead. Non, c'est deux beaux plus un whitehead. C'est trois. Celui-là, il fait trois. Celui-là que je n'ai pas dessiné, il fait deux. Et celui qui est quatre, c'est trois beaux et un whitehead. Vous voyez pourquoi je dis que je suis complètement crétin? Parce que ça fait des semaines que j'essaye de trouver une relation entre ces deux-là, mais en passant par là-bas. C'est-à-dire de supprimer le whitehead, alors qu'il faudra rajouter. C'est le quart de tour, le whitehead. Ça, j'ai dit que je vais aller vous expliquer ce que c'est que ce quart de tour et ce whitehead, parce qu'apparemment, certains n'ont pas vu. Faire un quart de tour comme ça, à trois croisements, ça correspond à un mouvement hybride. Oui, mais c'est un mouvement hybride. Un mouvement de nœud hybride qui permet de faire ça. Vous voyez, dire qu'on fait faire un quart de tour aux trois croisements, c'est une description. Mais dans la topologie des nœuds, ça correspond à un mouvement nœud hybride, c'est-à-dire à un nœud de Whitehead. Mais c'était idiot pour aller de là à là, de supprimer Whitehead pour le réintroduire. C'est sûr que ça, il n'y avait pas de chemin direct, puisque si je supprime le Whitehead, je vais sûrement pas trouver celui-là, parce qu'il y en a un de Whitehead dedans. C'est ça qui est extraordinaire, qui devrait vous paraître extraordinaire, vous savez, c'est que moi je suis persuadé que quand un truc est dedans, dans le nœud, il y est, et bon, pour qu'il n'y soit plus, il faut le retirer. Et si on le retire, il n'y est plus, mais si on ne le retire pas, il y est toujours. Et vous allez voir que ça se vérifie. Donc ça, c'est une intuition que j'ai, parce que j'ai une intuition très forte de la charpente de ce truc-là, qui marche. Hein? C'est ma formation de psychotique qui apprend à lire. Ça me permet d'avoir comme ça cette pratique de la lecture qui fait que je suis intimement persuadé que mon comptage des mouvements nœuds et des nœuds est bon. Hein? Et là, ça se révèle encore une fois vérifié. Bon, c'est pas pour ça que je l'ai fait, c'est pas pour le vérifier, j'en suis persuadé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'écrire mieux pour qu'on puisse l'étudier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez, c'est ce bleu qui est là qui est trompeur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, entre le bleu et le blanc, vous voyez, il n'y a pas le quart de tour qu'il y a là. C'est ce croisement propre et cette boucle qui représente le whitehead. Ça, c'est sûr que c'est le whitehead. Donc, et qu'est-ce qui est le whitehead ici? C'est le bleu et le blanc qui font whitehead. Alors, qu'est-ce que j'appelle whitehead? Je vous le dessine comme ça. Le bleu et le blanc, je vous les dessine comme ça, regardez. Ça, c'est le bleu et le blanc. Ils sont comme ça. Si j'enlève le troisième, hein, si je fais une chaîne qui va se défaire, non, qui ne va pas se défaire, qui va donner un nœud whitehead. Vous voyez? Voilà, il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est bleu, et l'autre qui est blanc. Ils sont symétriques dans cette présentation du whitehead. Ça, c'est un nœud whitehead. Ah non, attendez, je me suis trompé, il doit être non alterné. Attention, j'ai fait une erreur ici. J'ai vérifié en haut, mais ici, je me suis trompé sur ces trois-là. Voilà, il passe en dessous ici. Et là, il passe au-dessus. Voilà, comme ça. C'est non alterné. Hein. Quand j'enlève le troisième, c'est non alterné. Qui reste. Voilà. Donc, c'est, les trois ici, c'est inversé. Vous voyez ça? Vérifiez, hein, vous pouvez bien vérifier. Si je retire ce grand rond-là, il me reste deux ronds, un blanc et un bleu, et ici, ça passe en dessous, et ici, ça repasse en dessous. En dessous, en dessous. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a un white tail, parce que regardez, maintenant, si cette partie bleue-là, je la plie à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle va donner ? Il y a ça qui ne va pas bouger. Ça, ça ne va pas bouger. Ça, ça ne va pas bouger. Et ça non plus, ça ne va pas bouger. Voilà. L'autre, je ne vais pas le bouger. Le blanc, je n'y touche pas au blanc. Hein. Je vous le laisse comme ça. Voilà. Le blanc, il est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais de cette partie bleue qui est là ? Cette partie bleue, je vous dis, je la fais passer en dessous et je vais la faire passer directement de là à là. Vous voyez, parce que ce croisement et ce croisement, ça passe en dessous. Donc je peux faire passer cet arc par en dessous et je peux faire ça passer ça comme ça. Ben ça, c'est bien un nœud whitehead. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un nœud whitehead ? Un nœud whitehead, c'est ça, regardez. Voilà la présentation la plus standard du nœud whitehead. C'est la plus petite présentation. Là, vous avez. Il est alterné de boucles. Ça, c'est le nœud whitehead. Donc dans cette chaîne, il y a un nœud whitehead. Et je l'ai obtenu par un quart de tour sur ces trois croisements. Bon. Alors, qu'est-ce que je me suis dit ? Ben, si celui-là, c'est le bleu, c'est le nœud whitehead. Ici, il n'y a pas de whitehead entre le blanc et le bleu qui sont tricotés ensemble. Donc, comme le nœud whitehead, il est là. C'est avec celui-là qu'il y a whitehead. Donc le bleu, celui qui correspond au bleu qui est là, c'est pas celui que je voulais vous faire voir en vous donnant les photos, en vous donnant les figures. Vous voyez, il y en a un que j'avais mis en bleu pour vous le souligner, pour qu'ensuite vous puissiez comparer les autres parties en suivant ce bleu. Hein? Eh bien, il se trouve que cette lecture est trompeuse.
Vous avez mis dans le bleu.
Comment ?
Vous avez mis dans le bleu.
Oui, ça, vous pouvez dire ça comme ça si vous voulez, mais moi j'étais dans le bleu. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je vais vous mettre en vert celui qui devrait être en bleu ici pour être le bleu là-bas. C'est ou celui-là. Je vais prendre celui-là. Et je vais vous montrer comment je transforme ce nœud avec ce rond vert qui va devenir le rond bleu de mon autre. Voilà. Celui-là, il va devenir bleu. Il va être le bleu de ce dessin-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un whitehead entre le blanc et le vert. Et ben, le blanc, ça va être celui-là. La boucle, elle va disparaître grâce à un mouvement nœud. Mais la boucle qui va disparaître grâce à un mouvement nœud, je ne vais pas la faire ici, ce mouvement nœud. Je ne vais pas faire disparaître la boucle grâce à un mouvement nœud. Voilà le lapsus que j'ai fait. Comme il faut faire disparaître la boucle avec le croisement propre, hein, il faut faire disparaître ça, j'ai pensé faire le mouvement nœud sur ça. Et bien justement, il faut faire le mouvement nœud ailleurs parce qu'il faut garder le whitehead dans le résultat. Mais la boucle va disparaître grâce au mouvement nœud quand même. Vous voyez comme quoi on peut être con, hein? Quand on connaît trop de trucs, on connaît trop de trucs. Il faut se calmer un peu et puis recommencer à réfléchir. Il faut essayer d'avoir une stratégie. Alors ma stratégie, j'ai réussi grâce à quoi ? Et c'est après coup que je me suis rendu compte de mon erreur. Hein? Mais ma stratégie, je l'ai pu la revisiter grâce à quoi ? Grâce au fait que je me suis dit... Mais il y a les cas les plus simples, là, les plus petits, de ce type-là. Le plus petit de cette sorte-là, le plus petit, là, il est, je le connais bien, il est comme ça. Il est comme le. Regardez, le plus petit, je vais vous le dessiner comme ça. Celui-là, c'est un borroméen. C'est un nouveau borroméen qui n'est pas dans Lacan ni dans Souris. Comment je le connais, ça, c'est une autre histoire. Voilà, ça, c'est un nœud borroméen qui n'est pas connu ni de Lacan ni de Souris.